Donc, on arrive à l'église à Pergame. Je vais venir à Apocalypse 2, 12 à 17. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. À celui qui a des oreilles, entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. L'église à Pergame est vraiment connue pour ses compromis. C'est vraiment celle. Pergame veut dire qu'elle est mariée au monde. On doit vraiment. La question, c'est vraiment comment est-ce qu'on se mélange au monde? J'ai eu un peu du mal quand on m'a dit de. On m'a demandé de partager. Et soudain, quand j'ai regardé quelle réunion était déjà prise, j'ai vu Pergame. Le Seigneur m'a vraiment parlé sur le danger du compromis aujourd'hui. Quand on veut construire ce chandelier d'or devant le Seigneur. Le verset ici, il dit que le trône de Satan est là. Ça m'a vraiment frappée. Et je me suis demandé comment est-ce que c'est au jour où le Seigneur revienne. Le Seigneur dit celui qui règne sur ce monde sera jeté dehors. Aujourd'hui, c'est lui qui règne sur le monde. Beaucoup de personnes sont contre la volonté de Dieu. Donc, le trône de Satan est vraiment dans cette église. D'après la parole, avant le retour du Seigneur, cet âge va être de plus en plus noir. Et du coup, cette église de Pergame est vraiment pertinente pour la situation d'aujourd'hui, parce qu'il va être de plus en plus dur de distinguer à mesure que le monde devient de plus en plus noir. Luc 17. Versets 26 à 30. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, Une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Clairement, dans la parole avant le retour du Seigneur, avant que le jour du Seigneur soit relevé, soit révélé, ça va être de plus en plus comme au jour de Noé, où tout est sens dessus dessous. Le trône de Satan est, dans ce sens, en train de gagner de plus en plus de terrain. Donc maintenant, à Pergame, on voit vraiment. On ne devrait pas être marié à ce monde ou dans le compromis. Mais, au contraire, ce chandelier devrait être pleinement pur. On connaît ce verset. On a besoin de cette image dans nos cœurs. Éphésiens 5, 27. Pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Amen. Est-ce qu'on devrait le relire? Oui. Pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Mais sainte et irréprochable. Amen. Hier, avec quelques-uns des enfants les plus âgés, on lisait comment est fait le chandelier. C'est la nature de Dieu et qui, par l'œuvre d'un marteau, devient ce chandelier qui montre la vie de résurrection du Seigneur. Et aujourd'hui, il nous montre qu'il aimerait gagner cette église glorieuse, sans ride, ni tache, ni rien de semblable, dans le temps sombre où on est. Dieu veut encore gagner cette église. Malheureusement, aujourd'hui, comme on voit à Pergame, ce point est vraiment perdu parmi beaucoup de chrétiens. On voit le compromis comme une manière de le rendre plus... Le compromis est vu comme un moyen d'attirer plus de monde, mais en fait, on devrait aller non pas vers ce compromis pour que plus de gens soient attirés, mais vers la sainteté, parce que ce monde dans lequel on est de plus en plus sombre. Et en fait, on doit briller par contraste avec ce qui nous entoure. C'est comme au temps de... Dans... On doit vraiment sonder dans nos cœurs pour voir s'il y a du compromis. Parce que il est possible qu'on commence à faire des compromis pour rendre la parole du Seigneur plus simple. Peut-être qu'un jour tu fais un compromis sur une petite chose, tu te dis, ah, c'est pas une si grosse chose. Mais en fait, au travers du temps, tu vas encore et encore faire ce compromis en te disant ah, c'est pas si grand, c'est pas si grand. Mais on doit se souvenir du temps de Noé et du temps de Lot. L'ennemi, il ne nous attaque pas passivement, mais activement, il attaque l'Église. Il veut combattre contre les chrétiens, rendre les choses difficiles pour qu'à la fin, il fasse du compromis. On doit considérer que le monde va continuer de nous attaquer au sujet de son Église et que ça va devenir de plus en plus sombre. On voit là l'exemple d'Antipas. Comme on a partagé hier au sujet d'être un martyr, il n'a pas aimé son âme jusqu'à craindre la mort. Et il n'a pas fait de compromis. Jacques 4:4 Ne savez-vous pas, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Aujourd'hui, si on ne veut pas faire de compromis, comme à Pergame, on doit réaliser qu'on va pas être ami avec ce monde, on va pas être très populaire. C'est pas grave. Au lieu, tu vas être un ami de Dieu. À la place, tu vas être un ami de Dieu. En lisant ces versets, il mentionne deux doctrines, celle de Balaam et celle de des Nicolaïtes. J'ai contre toi que tu gardes. Tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam qui ont enseigné à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les enfants d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. Tout ça a commencé par le désir d'un gain financier. Et c'est ça qui a amené au fait de permettre que ces choses se passent. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer dans l'Église. Si tu es payé pour partager la parole de Dieu, c'est une grande tentation de faire faire du compromis avec ce que fait le monde. Ça va être plus attractif, mais on doit être saint comme Dieu est saint, dit Pierre. Si on essaye d'être saint comme il est saint, c'est pas facile pour la chair à accepter. Être attentif à chaque petit espace de notre chair. Si on doit être conscient qu'elle combat contre l'esprit. Et il y a cette guerre entre la chair et l'esprit. C'est difficile de gagner de l'argent après avoir offensé tout le monde. Donc, si tu veux te faire de l'argent, tu vas dire Dieu est bon, Dieu juge pas, Dieu va te bénir et tu vas dire ce que les gens veulent entendre. Tu vas toujours co te compromettre, faire du compromis parce que pour que ce soit ta manière de vivre, ton revenu, eh ben, il faut que tu sois payé. Mais tu vas couper juste un petit bout à la place de couper comme la parole de Dieu qui sépare vraiment. Tu vas couper juste un petit bout. On a besoin de voir que le fait de ne pas être saint vient vraiment de l'ennemi. Parmi nous, on ne se fait pas de l'argent en parlant, mais on doit aussi voir vraiment qu'est-ce qu'on dit. Est-ce qu'on dit ce qui est plus acceptable à entendre. J'ai un ami
Parfois, on a des partages sur la parole. Je l'ai invité à venir. Sa réponse a été, je préfère aller ailleurs parce que vous êtes trop chrétien. Seigneur Jésus. Qu'est-ce que je peux dire à ça? Est-ce que je devrais lui dire, ah, ok, peut-être qu'il faudrait que je dilue un peu la parole pour que tu te sentes mieux. Seigneur Jésus. Si on veut suivre la parole, si on veut bâtir ce chandelier d'or devant Dieu, les impuretés doivent être brûlées. On va pas forcément être parfait au moment où on décide de suivre le Seigneur, mais on ne peut pas faire de compromis. On a besoin de savoir la vérité pour annoncer la vérité. Je parlais à une sœur l'autre jour et les catholiques minimisent vraiment le fait de lire la parole soi-même et gardent la parole séparée des hommes. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens disent la même chose. Oh, tu devrais pas lire tel livre, il est trop difficile. Lis juste les évangiles, c'est le plus simple. Aujourd'hui, en tant que ces sacrificateurs, on a besoin de le comprendre pleinement. Pas faire de compromis, mais vraiment le faire pour lui. Je lisais dans les paroles la semaine précédente. Les catholiques qui vont maintenant bénir les unions. On va pas les marier, mais on va bénir l'union des personnes de même sexe. Peut-être que ça les amènera à obtenir plus d'argent. Mais à quel coût? Est-ce qu'on doit porter atteinte au sanctuaire de Dieu par nos choix? Annoncer la vérité ne sera pas populaire. C'est pour ça que le Seigneur est tellement contre cette doctrine. Ensuite, il parle des Nicolaïtes, de la doctrine des Nicolaïtes. Cette doctrine, c'est vraiment qu'il y a ceux qui sont au-dessus, et puis Nico, c'est ceux qui sont au-dessus, et puis Light, c'est ceux qui sont en bas, qui font que recevoir. Mais si on lit même depuis le tout début de Apocalypse, Apocalypse 1, il nous dit qu'on est tous appelés à être sacrificateurs et rois pour Dieu. Chapitre 1, verset 6. C'est vraiment, ça diminue vraiment l'impact de la parole. Jean 1, Jean 2, 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Et comme son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Nous avons cet enseignement que nous avons reçu et cette onction est capable de nous enseigner toute chose. Nous avons l'esprit de celui qui est du début à la fin, l'alpha et l'oméga. qui est bien plus long que n'importe quel enseignement dans la parole. Donc, cet enseignement que l'on a nous fait de manière à ce que l'on puisse comprendre d'une pleine manière qu'est-ce qu'il veut nous enseigner aujourd'hui. J'ai été très encouragée. Mon fils, hier, a donné une offrande sur le fait de lire la parole. Souvent, je lui dis, tu devrais plus lire la parole. Mais un jour, il a juste décidé, je veux lire la parole. Je veux plus lire la parole. Et du coup, il s'asseye avant d'aller au lit pendant 20, 30 minutes. Il va simplement lire la parole. Qui lui a enseigné? Je peux que dire merci Seigneur. Le Seigneur est cette onction. Il est capable de nous enseigner toutes choses. On ne devrait pas regarder aux autres, dire, ah, eux, ils sont sacrificateurs, moi pas. Oh Stéphane, tu devrais être un pasteur, tu sais. Tu prends un tellement bon prêtre. Prêtre et sacrificateur, c'est le même mot en anglais. Mais en fait, du moment que tu as reçu le Seigneur, tu es un sacrificateur. On a la même onction. Et il nous équipe aussi quand on lit 2 Timothée 3, 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli, propre à toute bonne œuvre. Par son écriture, aujourd'hui, nous avons toute l'écriture qui est inspirée de Dieu, dans l'onction. On a la capacité de le servir en tant que ses sacrificateurs, si on le désire. Aujourd'hui, cette doctrine des Nicolaïtes est vraiment haïssable pour Dieu, parce qu'elle retient son peuple. On n'est pas juste là pour un travail. Quel était ton rôle dans cette conférence? Ah, moi, mon rôle, c'était de faire cette partie-là. Ça, c'est mon travail devant le Seigneur, mon service saint pour Dieu. Ça a l'air idiot, mais il y a un frère avec qui je parlais. Tous les dimanches, il allait simplement jouer au basket avec les enfants. Il y a ceux qui s'occupaient des lampes, ceux qui s'occupaient de... Chacun avait sa fonction. Et ce frère, lui, c'était de s'occuper des enfants. C'est pas le fait de jouer au basket avec lui. Mais ce qui est important, c'est de demander au Seigneur comment est-ce qu'on sert le Seigneur. Et demander au Seigneur. On a des fois cette représentation que les frères s'occupent de la parole et les sœurs font que les choses pratiques. Mais en fait, en tant que sacrificateur, on doit vouloir expérimenter le Seigneur dans tous ses aspects, de le servir entièrement. Ça ne devrait pas être le fait qu'on nous assigne un travail ou un autre, mais de vraiment demander au Seigneur. On devrait demander à Dieu sa permission. Qu'est-ce que je devrais faire devant toi? De le chercher pour le servir ensemble. C'est vraiment le danger de cette doctrine des Nicolaïtes. On est tous ensemble des sacrificateurs pour Dieu. Ensuite, il dit comment faire. Il dit, c'est pourquoi, repens-toi. Je ne sais pas quel verset il a lu. Le Seigneur veut nous retirer de telles pratiques, veut nous sauver de telles pratiques et de faire du compromis. Quelle est la récompense? La manne cachée. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. La première manne leur a été donnée pour les nourrir chaque jour. Mais je crois que la manne cachée, elle remplit encore plus. C'est quelque chose que le Seigneur nous révèle encore un peu, mais c'est vraiment quelque chose qui peut nous remplir. On ne doit pas être amis avec le monde. Rien ne doit nous monter. Ce n'est pas une question de juste pas vouloir nous compromettre, mais c'est aussi une question du fait que le Seigneur nous récompense en nous donnant cette manne cachée. Je lui donnerai un caillou blanc et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. J'aime beaucoup ce verset aussi. Ça veut dire qu'il va nous donner une nouvelle identité, un nouveau rôle. Si on va bientôt quitter un poste, quand tu donnes ta démission quelque part, t'as plus tellement d'attachement pour ça. T'es là, ouais, ok, je vais les aider encore avec ceci ou cela. Mais tu te sens plus aussi responsable que 2 mois auparavant. Nous, aujourd'hui, si on sait que le Seigneur vient et il désire venir rapidement, peut-être qu'il nous reste juste 2 mois. On devrait aussi avoir un tel sens. De cette vie qui est en nous. Il faut qu'on attende une telle entrée dans le royaume. Oui, ne désirons pas être populaire ou ami avec son monde, mais être de ceux qui voient vraiment et qui ont vraiment les yeux fixés sur le but d'être déjà plus loin en fait, d'être déjà avec cette rémunération devant nos yeux et pas ce monde, pour pas être faire dans le compromis avec ce monde. Amen.